plus pour être au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021 et de tous ses matchs.
Mesdames et messieurs, je vous annonce la présence de Radio Foot International RFI. Allez, merci, hélas, on passe à l'ouvrir pour un souverain.
Radio Foot International.
Je ramène cette équipe à la maison.
Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue à Yaoundé où nous sommes toujours installés pour garder le rythme de la CAN. Et nous vous proposons dans cette première partie de Radio Foot de revenir sur la folle soirée d'hier dans la compétition. La victoire historique des Sélakantes et l'élimination des Black Stars. Le sursaut des guerriers du Zimbabwe aux dépens du Sili National, qualifié cependant comme le Sénégal, qualifié aussi le Gabon et le Maroc. Nous, on se retrouvera ce soir après les matchs pour la deuxième partie à 21h10 TU. On compte sur vous. La passion football au Cameroun, on l'a vu malgré les stades pas très pleins. Nous en parlerons de cette passion avec nos invités parce que ce pays a un magnifique palmarès dans le monde du football et auquel l'un de nos invités a amplement participé. C'est un médaillé d'or. Il était à Sydney au JO en l'an 2000. C'est Jean-Paul Akono. Bonsoir Jean-Paul Akono.
Bonsoir Annie Gasnier.
Merci beaucoup d'être venu dans l'émission ce soir. Vous êtes l'ancien sélectionneur de ces Lions Indomptables et puis aussi vous êtes ancien joueur de la CAN en 1972.
C'est exact.
Et ça, c'est pas commun et nous allons en parler. Et puis alors, face à vous, bah, du coup, on s'est dit, hein, on va rester dans les mêmes générations. On a un journaliste de référence ici qui s'appelle Josué Blaz Mbangakak.
Vous étiez né, déjà.
Moi, j'étais né.
Ah,
c'est vrai. Bonjour, Josué. Mais je ne me souviens pas de cette canne. Bonjour, Josué.
Josué Blaz Mbangakak. Bonsoir à Annie Gasnier. Je souhaite aussi par la même occasion meilleurs vœux à toute votre équipe et à vos sympathiques auditeurs. Je crois que nous aurons la capacité d'être à la hauteur du match qui va se jouer tout à l'heure.
Et n'est-ce pas ?
Meilleurs vœux aussi à Magnus qui est un ami
de
très longue date.
Merci beaucoup.
Et donc vous avez notamment couvert cette CAN de 72 mais aussi bien d'autres et nous en parlerons. À la préparation de Radio Foot International, fidèlement, bien sûr, David Finzel, il y a aussi Laurent Salerno. Et pour ce qui est de la réalisation vidéo, puisque nous sommes en Facebook Live, Cyril Etienne, Léo Dubois, Benjamin Vaillou et Denis Chastel sont à leur poste. Radio Foot, c'est parti.
Le jeu continue, c'était Faiz Matoua, c'est terminé ici à Garoua.
Le match spectaculaire de cette soirée donc vient de se terminer à Garoua, dans le nord du pays. La sensation de la soirée est donc venue des Comores, petit poussé de cette compétition qui nous rappelle d'autres petits poussés dans d'autres phases finales de CAN. Et évidemment, on pense à Madagascar. Prestation historique, nous disait Antoine Grenier, qui en perdait sa voix. Vous l'avez retrouvée, cette voix, Antoine ?
Oui, elle n'est pas partie très très loin. Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Antoine. Alors Antoine, racontez-nous un peu cette soirée de fou, parce que les Comores qui avaient perdu leurs deux premiers matchs, eh bien finalement là, ont joué le match de leur vie, peut-être libérés.
Oui, ils se sont libérés très vite, surtout parce qu'ils ont marqué dès la quatrième minute grâce à Ben Fardou, leur attaquant vedette, leur attaquant de base qui avait vécu une CAN très très compliquée depuis le début. Il n'avait pas vraiment trouvé ses marques. Et là, ce soir, il libère totalement ses coéquipiers dès la quatrième minute sur une passe d'Ibrahim Youssouf, une frappe sèche depuis l'entrée de la surface pour battre le gardien ghanéen 1-0. La soirée, c'est un peu compliqué après pour les Comores avec la blessure, grave blessure. En tout cas, ça paraît très sérieux pour Ben Bouana, le gardien gardien comorien, blessé sur un tacle pas maîtrisé de André Ayou, le capitaine ghanéen, logiquement expulsé sur cette faute. Et puis après, ce match, il est rentrer dans la catégorie des matchs dingues, des matchs complètement fous de la Coupe d'Afrique des Nations, avec le deuxième but à l'heure de jeu d'Ahmed Moni, puis la réduction de l'écart de Boakier, l'égalisation de Djikou. Là, on se dit, bon, à deux partout, les points sont partagés. Finalement, c'est assez logique. Et puis, à 5 minutes de la fin, Ahmed Moni, encore lui, l'ancien joueur du Paris Football Club, qui vient s'offrir un doublé et donner aux Comores la toute première victoire de leur histoire au terme d'un match époustouflant. Ça restera dans les mémoires, et pas seulement pour la première victoire des Comores, ça restera comme un match marquant d'une Coupe d'Afrique des Nations.
Et oui, parce que en face, évidemment, il y avait du répondant. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Il y avait les Black Stars, des Black Stars blessés qui devaient l'emporter pour réussir à passer le tour suivant et qui ressortent de la compétition éliminés, et avec André Ayew en plus qui a pris un carton rouge.
Oui, ils étaient blessés déjà dans leur orgueil parce que la défaite face au Maroc au premier match concédé dans les premières minutes leur avait fait du mal. Mais bon, c'était le Maroc, donc c'était l'autre favori du groupe. Que le Ghana perde 1-0, bon, on s'était dit, même si le match n'avait pas été terrible, que ça peut arriver de perdre contre le Maroc. En revanche, là où ils ont certainement perdu le fil, c'est contre le Gabon, parce que les Ghanéens s'étaient mis dans le bon sens en marquant dès la 20e minute par André Ayew, et d'un coup, parce qu'ils ont été naïfs, parce qu'ils en ont voulu aux Gabonais de ne pas avoir été fair play sur le but de Jim Alevina en ne leur rendant pas le ballon, on a le sentiment qu'ils se sont laissés envahir par la colère, ils se sont laissés envahir par les pensées négatives, et c'est peut-être ce qui s'est vu dans leur début de match, ce qui explique pourquoi ils prennent un but très tôt et pourquoi ils perdent à la toute fin de la rencontre. Ils perdent un match qui était essentiel pour eux, ils devaient gagner, ils arrivaient là à Garoua avec un seul point dans leur groupe et seule une victoire leur permettait d'être sûr d'être qualifiés. Donc ils ont pris cette Coupe d'Afrique des Nations totalement à l'envers, ils sont éliminés de manière relativement logique quand on regarde la chute du Ghana en termes de jeu. On retrouve plus ce Ghana qui nous avait fait vibrer en 2015 en arrivant en finale de la CAN, ou en arrivant en demi-finale en 2013 ou en 2017. Voilà, le Ghana est clairement rentré dans le rang. Ça reste une grande nation par l'histoire, mais à l'heure actuelle, le Ghana n'est pas une grande nation africaine, en tout cas dans le jeu.
Exactement. Et pour ce qui est de la qualification des Comores, hein, il faudra encore attendre, puisque ça sera au terme du meilleur troisième. Merci beaucoup, Antoine Grenier, de nous avoir fait vibrer dans Radio Foot, comme tout à l'heure, durant toute la retransmission de ce match incroyable. Jean-Paul Akono, des petites équipes comme ça, des petits poussés qui débarquent et qui renversent les gros, c'est pas si souvent, c'est admirable pour vous?
Ben, c'est ça qui fait le charme du football aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment le charme du football, la beauté du football, la passion du football. Parce que vraiment, je ne sais pas qui aurait
parié. Même le grand contre le petit peut gagner.
Mais bien sûr, encore que maintenant, si on parle de grand, c'est peut-être en termes de palmarès.
Bien sûr.
En termes de palmarès. Mais vraiment, pour moi, aujourd'hui, les niveaux se sont tellement... Il y a eu tellement de nivellement des valeurs. Tel enseigne qu'aujourd'hui, dire que parce que c'est les Comores, et parce que là-bas, c'est le Ghana... Normalement, et à partir des statistiques, des performances des équipes par rapport aux autres, on fait le classement, on fait le ranking, on dit, bon voilà, on pense que non, les Comores ne peuvent pas tenir, n'est-ce pas, devant les Ghanéens, qui ont quand même un riche palmarès.
Oui.
Vous voyez, on se base sur le palmarès, au lieu de se baser sur ce qui... Et se passe à travers le développement du football dans chaque pays.
Ce qui fait qu'au coup d'envoi...
Moi, je ne suis plus surpris. Et je me rappelle que quand on me posait ces questions pour voir les chances des uns et des autres, j'avais bien pris la peine d'attirer l'attention de nous qui sommes les pronostiqueurs, qu'il faut faire très attention. Très attention. ces gens qui viennent, comme on les appelle ici au Cameroun, les non-em, vraiment, il faudra faire très attention. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je crois plutôt que pour ce premier tour, c'est eux qui ont animé vraiment le premier tour de la CAN. Ce sont ces non-em qui ont animé le premier tour de la CAN. Aujourd'hui, c'est le Ghana qui est tombé face aux Comoriens. Oui. Hier, c'était l'Algérie qui tombait face à la Guinée équatoriale. Avant-hier, c'était la Sierra Leone qui
tenait en échec, le Sénégal.
Plus proche de nous, le Cap Vert.
Comment ?
Plus proche de nous, le Cap Vert qui tenait.
Le Cap Vert même, d'ailleurs. Le Cap Vert, encore qu'on peut dire que le Cap Vert, un peu son ascension, n'est-ce pas ? On l'a su depuis pratiquement une dizaine d'années. Donc, vraiment, c'est comme je vous le dis, Annie Gasnier, c'est ça qui fait le charme aujourd'hui, n'est-ce pas, de la CAN.
Et de ce sport. Alors, on va continuer parce que justement, on a eu une journée folle et c'était aussi une journée folle ici au stade Aïdjo de Yaoundé. Avec des résultats inattendus, mais un match fou, beaucoup de buts. Et c'était ce Gabon-Maroc entre Panthères et Lions de l'Atlas. Ils se sont déchirés, on va dire, ces félins. Et finalement, il n'y a pas de vainqueur. Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir, Anino, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur, mais on a vu un super match, Annie. Hein, vous l'avez vu comme nous.
Ben oui, justement, on l'a vu. Et alors, les Panthères du Gabon, ce qui a été surprenant, c'est qu'elles ont mené finalement assez longtemps dans ce match. On a cru qu'ils allaient battre le Maroc.
Et ils ont même mené deux fois. C'est incroyable l'histoire du Gabon. J'entendais Jean-Paul Akono parler des petites équipes. Alors, on rappelle au passage que la Sierra Leone, c'est face à l'Algérie, hein, qu'il y a eu 0-0 et pas le Sénégal. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de petites équipes faire des résultats. Le Gabon, a priori, n'est pas une petite équipe. Mais compte tenu de tout ce qu'elle a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, l'état dans lequel elle est arrivée avec tous ses joueurs Covid et ses vedettes, Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang, dans l'avion hier, retour en club, Denis Bouanga, qui est presque une star lui aussi dans cette équipe, attaquant omniprésent, qui est finalement positif au Covid, qui n'est pas là, on donnait pas cher de cette équipe du Gabon. Elle nous a emballés aujourd'hui. On va pas dire que le Maroc n'a pas bien joué. Le Maroc termine premier de ce groupe avec 7 points, rien à dire. Mais c'est le Gabon qui nous a emballé ce soir. Vraiment, vraiment emballé et qui a mené effectivement deux fois. D'abord sur un but à la 21e minute, inscrit par Jimmy Alevina, qui sera élu, lui, homme du match, le joueur de Clermont. Il y a encore un Clermontois, décidément, ils sont partout, ces gens-là. Et puis ça a tenu toute la mi-temps, ça a tenu jusqu'à la 74e minute. Je suis en train de regarder mes fiches, parce que j'ai un peu écrit partout, hein, c'est comme ça dans les soirées de déglingo. 74e minute, le pénalty frappé par Sofiane Boufal, qui trompe à Monomé. Un partout, là on se dit, ça va rentrer dans le rang, et puis finalement les deux équipes, un match nul, c'est pas si mal, ça maintient leur position. Eh ben non, Alevina, il s'arrache à la 82e. Il s'arrache pour aller réussir à centrer au cordeau. Et on a longtemps cru, je viens de revoir le ralenti, j'ai eu un doute, j'ai été vérifié, que c'était Aaron Boupenza qui avait repris ce ballon pour inscrire le deuxième but gabonais. Ben non, c'est un but contre son camp, figurez-vous. Et quand on revoit le ralenti de très très près, suivant l'angle, on voit bien que c'est Naïef Aguerd, pressé. Il a tellement peur que Boupenza le reprenne, ben il met son pied et c'est lui qui trompe son propre gardien. Ça n'a pas duré longtemps ce 2-1. Deux minutes après, le coup franc d'Achraf Hakimi, somptueux, on l'a vu passer là tout à l'heure. Il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu une super entente entre ces deux équipes. Beaucoup d'images de joie, de fraternité, on a échangé des maillots. Beaucoup de belles images à la fin, on s'est régalé encore une fois, c'était top.
Et les deux équipes se retrouvent finalement qualifiées dans ce groupe, malgré ce résultat nul. Et puis Olivier, autre match aujourd'hui important dans ce stade de Yaoundé, eh bien c'était la Guinée.
Attention, on suit quand même l'ouverture du score, Zimbabwean. Oui. Elle est signée Moussola, knowledge Moussola. Contre toute attente, c'est le Zimbabwe qui vient rappeler aux Guinéens que rien n'est acquis. Ça fait 2-0 juste avant la pause pour les Warriors qui
qui peuvent redistribuer les cartes. Superbe de Naby Keïta, extraordinaire. Il se l'est amené tout seul. Et voilà la star de cette équipe guinéenne. Naby Keïta qui vient réduire le score. Ramener les Guinéens à un but maintenant. Des Zimbabwéens 2-1.
Eh oui, mais ça n'a pas suffi, ce superbe but effectivement de Naby Keïta, et le Zimbabwe l'a emporté, des Warriors déjà éliminés, mais qui se sont montrés très guerriers sur le terrain, qui ont piégé le Sili National. Et d'ailleurs, le sélectionneur Kaba Diawara a essayé d'expliquer le comportement de son équipe.
En fait, je pense que voilà, on avait décidé de presser haut, mais on n'a pas pu le faire. En fait, le Zimbabwe nous a complètement endormis. Ils ont cassé le rythme dès le premier minute. Donc, on n'a pas été capable de mettre du rythme à chaque fois. Et on s'est fait prendre.
Voilà quelqu'un qui a perdu sa voix, Kaba Diawara. Mais Olivier Pron, alors c'est vrai que les deux mi-temps ont été très différentes. Hein. L'équipe de Guinée, finalement, a peu joué, on va dire, en première mi-temps pour après se réveiller et revenir au score en deuxième mi-temps. Est-ce que cette équipe vous a déçu? Est-ce que vous la voyez aller plus loin?
Je ne sais pas si elle va aller plus loin. Moi, je lis pas dans les étoiles ou dans le mar de café. On verra bien. C'est les huitièmes de finale. Ce sont les matchs à élimination directe. Tout peut se passer. On a vu et on en a parlé depuis le début de votre émission. Vraiment incapable de faire un pronostic. Je suis pas du tout d'accord avec Kaba Diawara. Le Zimbabwe n'a pas endormi la Guinée. Les Guinéens ne se sont pas réveillés. Tout simplement, ils étaient encore à la sieste. Et la première mi-temps, ils n'ont pas existé parce que les Zimbabwéens étaient bien plus mordants. Beaucoup trop de déchets techniques. On n'a pas du tout reconnu cette équipe. Équipe qui commençait à nous emballer un peu après deux matchs, l'équipe de Naby Keïta. Alors, elle est en huitième de finale, tant mieux, c'est évidemment mérité, mais elle a été très décevante, au moins en première mi-temps. Elle aurait mérité sans doute, peut-être, de revenir complètement, mais les Zimbabwéens, avoir leur joie à la fin du match, on était contents qu'ils aient pu décrocher cette victoire. Ce sera pour l'honneur, ils sont quatrième avec 3 points. Et les Guinéens s'en sortent pas si mal. Ils avaient fait l'essentiel en faisant match nul contre le Sénégal et en battant les Malawites lors de la première journée. Mais c'est vrai qu'ils ont été décevants. Le truc à retenir, c'est Naby Keïta qui a été vraiment l'homme du premier match, l'homme du deuxième match, qui a été déterminant là, qui a marqué un but exceptionnel. Naby Keïta, vraiment voilà une star qui est au rendez-vous. On l'attendait, il est là. Le problème, c'est qu'il a pris un stupide carton jaune et qu'il sera suspendu pour le huitième de finale. Ça, c'est ballot. Et quitte à parler de huitième de finale, on l'a pas dit pour le groupe d'avant, il y aura un huitième de finale Gabon-Burkina Faso. Celui-là, on le connaît. C'est la première affiche que l'on connaît totalement. Ce sera à Limbé et il vaudra son pesant de cacahuètes. Je suis désolé pour cette info que je redonne avec un peu de retard, mais c'est le premier qu'on connaît, donc il faut. On va commencer à en parler des huitièmes de finale. Aristide Bansé, le Burkinabé, était d'ailleurs là pour superviser déjà.
Oui, oui. Effectivement, cette affiche sera donc celle des huitièmes. Pour ce qui est de cette Guinée, comment avez-vous trouvé le Sili National, Josué Blaise?
En réalité, le Sili National, lorsqu'on le regarde, évolue aujourd'hui avec notre regard un peu nostalgique, elle évolue en deçà des capacités de cette belle époque de Afia Football Club et de Oria avec les grands joueurs de cette époque-là. On pense à Mala Touré, Séli Bangoura, tous ces gars-là, Bemba Tostawo. C'était une grande équipe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on disait que les Guinéens sont au stade, tout le monde cherchait plutôt à avoir, qu'est-ce qu'on va avoir, 1-2-0, ou ils cherchaient à avoir le minimum. Jean-Paul est là devant. À cette époque, je me rappelle un Cameroun-Guinée en 79, merci, où le Cameroun avait pris 3-0 à Conakry, arrivé ici, avec l'armada des grosses pointures de cette époque de l'équipe du Cameroun, la Guinée est venue faire ici, c'est vrai, gagner un pénalty. Pour revenir sur le sujet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, cette Guinée-là, de gens de notre génération, on continue à la voir avec les yeux de cette époque, mais au regard de là, on ne voit plus ces fins parties des dribbles avec Mara Touré ou bien renvoyé sur Bengalisila et que cette époque est terminée aujourd'hui. Par contre, je ne sais pas si c'est toujours la même logique, le Gabon et la Guinée, c'est deux écoles différentes. Parce que le Gabon a pris soin de préparer, au moins depuis 30 ans, ce que le résultat qu'on voit là maintenant. Parce qu'à un moment donné, le Gabon avait pris des dispositions de faire tout un championnat corporatif, parce que toutes les équipes, c'était Shell, Petrosport, Sogara, les équipes du pétrole qui avaient tout, les deux seules équipes qui étaient des équipes privées, C'était le FC 105, FC Canon Football 105, qui était une équipe de l'armée, et l'USM, l'Union Sportive Bilanzambi, qui appartenait au milliardaire Boniface Asselé. Alors donc, aujourd'hui, ce qu'on voit là dans ces équipes, c'est qu'il y a eu un matelas de soutien qui a pu soutenir toute cette époque-là. Et avec ces gens, on a vu des premières vedettes telles que le père d'Emerick Aubame, Aubame Yaya, qui jouait à l'époque à Laval, ou Manon Régis, qui jouait à Tours, qui ont commencé à surmonter.
Et apporter un renouveau dans
voilà,
l'équipe.
Donc c'est-à-dire ce travail a payé. Et à cette époque, les joueurs venaient des autres pays africains pour aller jouer au Gabon. Je me rappelle même qu'un des grands joueurs camerounais est parti du Gabon, Paul Baouken, qui est parti du Gabon, qui a fait une très grande carrière en 81 en venant jouer au Cameroun. Il y a même des joueurs qui partaient de France pour venir jouer au Gabon, tels que Diallo, qui a fait une super... Donc, je pense que la Guinée n'est plus cette foudre de guerre-là qui...
Oui, c'est une équipe jeune en plus, hein, on l'a dit dans Radio Foot International. Voilà, exactement, et qui donne la sensation de revenir, surtout après un mauvais moment. Comment vous voyez, vous, la Guinée, Jean-Paul Akono ?
Ben, je crois que c'est ce que Blaise vient de développer. Il y a plusieurs pays, d'ailleurs, je crois même, y compris le Cameroun, qui n'ont pas, n'est-ce pas, su préparer, qui n'ont pas su programmer, n'est-ce pas, l'avenir, les avenirs, ce que je peux appeler les avenirs générationnels. Hein. On croyait que dès qu'on a une génération vraiment de footballeurs géniaux, de grandes équipes et tout, ça allait perdurer dans le temps. Et alors, oubliant que, comme dans toute activité, on grandit et on se maintient. Et à un moment donné, il faut redescendre parce qu'on aura vieilli. Donc, même le Cameroun a connu cette période-là. Et c'est à partir du moment, à partir des assises, que le ministre Toyembo Félix avait organisé, qu'on a donc pensé que non, le développement du football s'est fait autrement.
Pour la petite histoire, pour situer les auditeurs, Toyembo, que le ministre qui vient juste après 72,
voilà,
et qui est celui qui est le géniteur de l'appellation Lions Indomptables. Parce qu'en 72, les Lions Indomptables ne s'appellent pas encore Lions Indomptables.
C'était l'équipe nationale.
On les appelait le 11 national,
tout simplement. On va y revenir, parce qu'on va revenir un peu sur le souvenir. Olivier Pron, on voulait vous libérer d'avoir été avec nous en direct. En tout cas, vous avez passé un bon moment dans ce stade à Ijo aujourd'hui, avec Joe.
Ah oui, on a passé un très très bon moment. On a vu 7 buts en 2 matchs. Cette CAN qui était ronronnante au cours des premières journées, ça y est, elle a bien bien démarré. On avait même un peu de monde ici dans ce stade Amadou à Ijo. Et juste cette précision, Kaba Diawara, il l'a dit lui-même, la voix, il l'a perdue évidemment à la mi-temps, parce que comme on vous l'a décrit, la première mi-temps du Sili était tellement nulle que il a dû vraiment... J'aurais pas aimé être un joueur du Sili à la mi-temps. Ouh, on était bien mieux avec Julien Boileau ici et Joseph-Antoine Bell, et on ne savait pas encore ce qui nous attendait ce soir. Tous ces buts, vraiment un régal.
C'était une très belle journée, effectivement, très particulière aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Pron, d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. Et nous, on continue, on va parler d'une autre équipe qui s'est qualifiée aujourd'hui en passant un petit peu par le chat de l'aiguille, hein, par la petite porte, et c'est celle du Sénégal. C'était sur la pelouse de Bafoussam, là où se trouve cette équipe du Sénégal, et le match, c'était Malawi-Sénégal, mais la révolte des 100 grades, comme on l'a dit aujourd'hui, puisque le Malawi, autre équipe de la journée, qui a voulu s'illustrer, elle avait battu le Zimbabwe, mais là, elle a bien embêté le Sénégal. Score final, 0-0, et le latéral des Lions de la Teranga, Bounassar, le reconnaît, il y avait des difficultés.
Un match difficile, on a vu qu'on jouait contre des équipes très valeureuse, qui donnait à 100% et qui arrive à nous mettre en difficulté. Je pense que c'est à nous de trouver la solution pour s'améliorer dans le jeu et pour gagner ce match, tout simplement.
Et oui, il va falloir s'améliorer. Le Sénégal est premier du groupe, certes, donc il est qualifié pour les huitièmes de finale, mais on peut quand même faire un constat. Un seul but en trois matchs pour ceux qui étaient finalistes en 2019. Première équipe africaine au classement de la FIFA. Aliou Cissé est très critiqué dans son pays. Et là, je m'adresse au sélectionneur Jean-Paul Akono. Quand on a beaucoup de stars, ce qui est le cas de l'équipe du Sénégal, beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs, comment fait-on pour réussir à créer une harmonie? Et en plus, en si peu de temps, on le sait, il y en a ceux qui arrivent comme Sadio Mané de Liverpool qui arrivent au dernier moment. Est-ce que c'est une chose qui se met en place? On sait qu'il y a 7 matchs théoriquement jusqu'à la finale. Comment on fait?
Ben, je crois que ça rentre dans le job, effectivement, du sélectionneur. C'est pour cela qu'il est sélectionneur. Savoir constituer, n'est-ce pas, un casting, ce que j'appelle un casting, c'est-à-dire savoir, n'est-ce pas, sélectionner tel joueur par rapport à tel autre.
Oui, mais quand on a des stars, on est presque obligé de les convoquer.
Oui, mais vous,
et
n'avez,
les sélectionner.
Pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les stars en même temps. Sinon, vous allez justement vous perdre, n'est-ce pas, dans la composition de l'équipe. Or, les joueurs, la composition d'une équipe par un entraîneur dépend beaucoup plus de la complémentarité, n'est-ce pas, de tel joueur par rapport à l'autre joueur qu'il met ensemble dans une sélection. J'ai envie de vous dire que une sélection n'est pas un club de football, non. Les Lions du Sénégal ne sont pas comme le je sais pas, Jaraf de Dakar, mm-hmm. tout ça ainsi de suite. C'est vraiment une sélection et qui se constitue effectivement à partir d'un événement ponctuel. Et dès que cet événement finit, il n'y a plus d'équipe nationale. Elle restait juste sur les papiers. Donc, il faudrait pour la prochaine journée reconstituer une autre équipe. Resélectionner une autre équipe. C'est pour cela que vous allez voir que pour certains sélectionneurs, ce n'est pas toujours les mêmes joueurs qu'ils rappellent, mm-hmm. n'est-ce pas, mm-hmm. d'une sélection à une autre.
Ah, oui.
C'est pas possible. Donc, et quand vous êtes dans un pays, le Cameroun d'ailleurs a eu ce problème, où il y avait trop de superstars. Les entraîneurs, n'est-ce pas, se cassaient parfois, se trompaient de casting, ne sachant plus. Est-ce qu'il faut appeler tel? Est-ce qu'il va son jeu sera compatible avec celui-ci pour avoir une certaine cohésion, une certaine harmonie dans le jeu? C'est ça le véritable boulot d'un sélectionneur.
Bien sûr.
Et c'est pour cela que vous verrez, si vous me le permettez, vous verrez que tel peut être très bon joueur, mais ne rentre pas dans les plans de jeu, dans la philosophie de jeu, n'est-ce pas, d'un sélectionneur. Et les gens vont dire, mais oui, mais pourquoi il n'a pas appelé tel ballon qui fait ceci? Non, peut-être qu'il appellera à une autre occasion quand il trouvera que là, il peut l'appeler parce qu'il pourra jouer avec tel et donner, atteindre l'objectif escompté.
On a un renfort dans cette émission ce soir. Il arrive tout de suite, tout juste du stade. Bonsoir Joseph-Antoine Bell.
Bonsoir Annie, mais pourquoi vous avez utilisé ce terme-là? Parce que c'est un mot qu'on connaît bien au Cameroun, renfort. À l'époque, quand on appelait les professionnels pour venir jouer, on disait qu'ils venaient en renfort.
Et ben voilà, vous êtes venu en renfort dans notre équipe avec deux invités que vous connaissez évidemment. Joe, vous êtes allé à Bafoussam, vous les avez vus de plus près que nous, ces Sénégalais jouer. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit ils sont passés par la petite porte, même s'ils sont premiers?
Ils sont premiers. Ils ont, à mon avis, du souci à se faire. Parce que, dans un premier temps, on leur a trouvé des excuses. Mmh. Et moi, je suis leur ami. Donc, j'étais de ceux qui leur trouvaient des excuses. Et puis, finalement, il n'y en a plus. Les absents sont revenus. Le jeu n'est toujours pas là. La capacité à accélérer ou à créer quelque chose, on commence à en douter.
Ils n'ont plus joué à 14 heures.
Voilà, ils n'ont plus joué à 14 heures. Et moi, j'aime pas les équipes qui trouvent des excuses. Parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est peut-être pour ça que les Camerounais ont beaucoup gagné. L'expérience que j'ai, c'est que nous, il y a très très longtemps, c'était, j'allais l'appeler comme vous ne connaissez pas. Bon, à l'époque.
Ils l'ont dit au début.
Voilà. Donc, à l'époque de Magnusson.
Donc, alors, Jean-Paul Lacono, ouais, je décode.
Au début, là, oui, on avait des excuses. Mais justement, on perdait tout le temps. Vous savez, je leur voue un grand culte. J'ai quelques 5 ou 6 anciens comme ça. J'en parle toujours parce que quand on est arrivé en équipe nationale, ils étaient là. Ils perdaient. On pourrait retenir qu'ils perdaient. Non, ils étaient là quand nous perdions. Et grâce à eux, on a bien appris. Mm-hmm. On a appris, par exemple, que les excuses, ça ne vous fera jamais gagner. Donc, des histoires de « on était au Togo, c'est les cailloux, c'est le public, c'est machin, ils étaient à nos fenêtres ». Et puis, à un moment, on a compris que « mais non ». Si vous voulez gagner, que ce soit en club ou en équipe nationale, vous allez, on vous donne des choses qui nous arrivaient le jour du match parce que vous avez décidé de manger à votre ambassade. Vous ne voulez pas vous faire empoisonné, entre guillemets, et bien le car qu'on vous a donné, il va tomber en panne à midi, le jour où vous allez manger. Donc, si vous êtes là à vous plaindre parce que vous êtes sous le soleil, parce qu'il y avait la musique à vos fenêtres, vous gagnerez jamais. Donc, moi, les équipes qui disent, on joue à 14 heures, on joue à 13 heures, vous ne jouez pas à 14 heures tout seul.
Donc il faut s'inquiéter pour le Sénégal.
Moi, je suis désormais inquiet pour mes amis sénégalais parce que je m'attendais à ce que, aujourd'hui, étant premier, qu'ils assurent quelque chose. Or, s'ils font un résultat sans avoir réellement joué, en ayant récupéré les joueurs, la seule dernière petite excuse, c'est de se dire que, bon, depuis le Covid, c'est la première fois qu'ils jouent dans cette configuration. Mais ça ne tient plus la route. Il va falloir que
c'est
Sénégal...
C'est un peu pour tout le
monde. Ah oui,
exactement.
Faut que le Sénégal fasse quelque chose. J'ai vu le Maroc aujourd'hui. Maroc, Gabon, hey, ils nous ont produit quelque chose. Donc,
oui,
vraiment,
c'était spectaculaire.
Non, c'était spectaculaire. Et voilà.
On va continuer à parler de football dans cette émission. On va parler du Cameroun et de la passion football par ici.
Marquez le but, confrère sur le côté. Gardien à gauche, fait cramer les filets.
C'est un pays de foot. On ne parle que de foot dans ce pays. Les Camerounais sont très divisés sur plusieurs sujets. Ils s'entendent sur un seul, le foot.
Nous sommes donc dans un pays qui se présente comme une nation passionnée de football, avec des Lions qui comptent 5 Coupes d'Afrique à leur palmarès, et pas seulement, puisqu'il y a aussi un titre olympique, souvenez-vous.
Está bien adiantado, olha a cobrança! Mboma! Tem que segurar essa bola! Ele vem chegando, bateram!
Go de Camarões, c'était un match épique, c'était le quart de finale des Jeux Olympiques l'an 2000 à Sydney, Jean-Paul Lacono, et vous étiez avec ce groupe, vous étiez aussi avec un groupe extraordinaire de joueurs, ceux qui allaient gagner la CAN en 2000 et en 2002, et avec des stars, on entend là, même dit en portugais, portugais du Brésil, Mboma, qui était l'un des joueurs, et puis le tout jeune Samuel Eto'o. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là?
Oh ben,
de cette médaille.
Vous voulez que je vous dise quoi? C'était un souvenir qui ne peut pas s'oublier facilement comme cela. Vous savez, 2000 à aujourd'hui, ça fait combien? 22 ans, je crois. Vraiment, quand on évoque cette histoire-là, ou alors quand il arrive à une chaîne de télévision, n'est-ce pas, de pouvoir...
Vous vous promenez avec votre médaille, des fois?
Non, malheureusement, les entraîneurs...
On vous demande pas
n'ont pas droit aux médailles pendant
les Jeux. Ah, ils n'ont pas droit.
Aussi vrai que je vous le dis. Et d'ailleurs, je me suis plaint de ça auprès du président Issa Hayatou. Pour lui demander, mais non, il faut dire aux organisateurs que mais ce sont les entraîneurs qui sont les réalisateurs et les faiseurs de ces résultats. Comment on peut seulement apporter 18 médailles pour les joueurs et puis les entraîneurs n'ont rien.
Rien du tout.
J'impose.
Repartir les mains vides.
Simplement parce que lorsqu'un sprinter gagne sa médaille, on n'en donne pas à son entraîneur.
Voilà.
Donc là, c'est nous qui sommes allés. Dans le milieu des autres, donc on est obligé de s'adapter.
Voilà. Donc, voilà.
Mais vous aviez quand même...
C'était vraiment une superbe équipe.
Est-ce que vous pensiez que vous aviez de la chance d'avoir deux personnes comme Boma et Eto'o par rapport à d'autres, justement
Quand vous dites avoir de la chance, ils étaient là. Dieu a voulu qu'ils soient là, qu'ils soient au Cameroun et qu'ils soient doués, n'est-ce pas, en matière de sport et singulièrement en matière de football. Et c'est le Cameroun qui en a beaucoup plus profité.
Josué, c'était une touche en plus sur le palmarès du Cameroun, cette médaille d'or.
Oui, c'était une touche particulière.
Plus qu'une Coupe d'Afrique des Nations, non, quand même.
En réalité, pas plus, parce qu'en réalité, comme on dit en journalisme, c'est pas à vous que je l'apprends, la mort kilométrique a quelque chose de assez spécial. C'est-à-dire, plus on joue la Coupe d'Afrique des Nations, plus elle a la vigueur et puis elle a plus de valeur pour beaucoup d'Africains. Et comme Jean-Paul dit, lui qui est du métier, découvrait que les médailles n'allaient pas ici et là. Donc, même à l'intérieur du grand public, il y a beaucoup de choses qui font que les Jeux Olympiques, en réalité, ici, on pensait toujours à nos boxeurs tels que Jobe Salah, etc., Ndongo Ibanga, et aux athlètes. Donc, quand le foot a commencé à aller plus loin, c'était un peu plus comme une surprise. Et quand il est arrivé, on dit, tiens, pourquoi pas. Mais en réalité, c'est pas comme si on dit dans le milieu de la chasse, c'est pas vraiment des vrais trophées de guerre pour lesquels ça vous donne l'insomnie.
Mmh. Alors, la CAN 1972, elle s'est déroulée, puisqu'on parle toujours de ce marqueur, c'est-à-dire le Cameroun l'a organisée il y a 50 ans, la CAN, il l'organise de nouveau. Mais celle de 1972, on dit qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'en souvenir.
Je déclare ouverte les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football.
Pourtant, cette compétition, alors on entendait le président Ahidjo, et c'était le 22 février 1972, eh bien on l'entendait et il y a eu un hymne à cette CAN qui est devenu tellement célèbre parce que c'est pas l'hymne original dont on se souvient, mais on se souvient de la phase B du fameux disque. Et c'était Manu Dibango, bien sûr, le grand Manu Dibango, mais surtout le fou de foot que nous avions reçu dans Radio Foot. Cette coupe de 1972, pourquoi on dit que les aînés n'en parlent pas trop aux jeunes? Pourquoi on n'a pas voulu s'en souvenir, Josué Blaise?
Je crois qu'il y a tellement de mauvais souvenirs que la fois dernière où je suis passé par Brazzaville, où on allait me montrer le quartier où le chef de l'État à l'époque avait donné des portions de terrain aux Congolais.
Vainqueur de la CAN en 72 ici.
Voilà. Je voyais chacun, les Minga Pépé, tous ces gens-là, Mbono Sorcier, François Pelé, ils avaient des résidences et ça me faisait encore remonter ces 72. Parce que quand le président Ahidjo déclare cette ouverture, je me rappelle toujours le 23 mars, parce que ça commençait du 23 mars au 5 février. Oui, du 5 février au 23 mars, c'est plutôt l'inverse. Pardon. Donc tout le Cameroun battait, tout le monde savait. Et à cette époque, je vous assure, personne ne savait que le Cameroun pouvait perdre cette coupe. Et c'est pour ça que, d'abord, le premier accident qui arrive, on perd un de nos grands joueurs qui, à l'époque, qui s'appelle Emmanuel Koum, pas perdre de vue parce qu'il fait un accident, il n'est pas là. Il y a une de nos grosses vedettes qui arrive spécialement de Valenciennes, Joseph Yebgamaya, sur lequel on a l'impression que tout peut se jouer autour de lui et gagner cette coupe. Alors, quand on perd justement en cette coupe, il y a toute une véritable débandade. Les transistors sont cassés. Les époux sont battus à la maison. Il y a toutes sortes d'affaires dont, à un moment, Lorsque un enfant vous demande, mais papa, grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui dis, laisse, tu es encore très jeune. Donc on n'en parle presque pas.
Et vous, Jean-Paul Akono, vous étiez sur le terrain. Comment vous avez vécu cette après-coupe de 1972? Donc vous êtes éliminé par le Congo en demi-finale en 1972. Comment on vit après? Parce qu'on se souvient des Brésiliens là récemment quand ils se sont pris leur 7-1 et dont on se moque encore. Et eux qui étaient traumatisés par 1950. Donc des fois, ça dure le traumatisme.
Ben, comment je réponds ça? Je vous assure...
C'était une croix à porter ou ça s'oublie?
C'était plus qu'une croix à porter. Vraiment, c'était plus qu'une croix à porter. Je crois que j'ai envie de dire que c'est tout le ciel qui s'était abattu, qui s'était écroulé sur le Yaoundé et singulièrement sur le stade Amadou Ahidjo. Une chose est certaine, c'est que quand l'arbitre siffle la fin du match, on croyait que c'était... C'était un rêve. Non, c'est quoi? Le match est fini et on a éliminé. Mais je vous assure que c'était indescriptible. Ce que Blaise vient de dire, là, les transistors radio, puisqu'à l'époque, on n'avait même pas de chaîne de télé, les transistors radio, la cour de l'esplanade de la tribune présidentielle était... Mais il fallait voir les morceaux de
choses cassées.
Parce que les gens allaient au stade avec des transistors pour essayer de suivre qui est Ndengaki, qui est Ngasaki, qui est François Mpelé, qui est tout ça. Donc, forcément, à la fin, lorsqu'on siffle, c'est la débandade. Et comme on dit, déjà, le reporter camerounais Ben Bengue, qui était à cette époque avec Mac Nibo, à 5 minutes de la fin, il continue de dire. Je vois pour la première fois le président Ahidjo allumer une cigarette en public, mais il restait 5 minutes à jouer, mais quelque chose me dit que le Cameroun va battre. Il restait 2 minutes, mais quelque chose me dit que le Cameroun va battre. Jusqu'au moment où on perd, il y a dans les reporters congolais qui sont à côté, tu avais Joseph Gabio qui était là, et les autres, ils ont entonné des hymnes en congolais. Congolais, Makambo, et il chantait. Et lui-même, le reporter congolais dans la tribune de presse disait, je n'y croirai jamais. Ces buts venus de là par Minga Noël Pepe sur une action de Mono le sorcier, je vous assure que je n'y croirai jamais. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué de penser que c'est un match qui va se rejouer.
Et ben voilà, les souvenirs hein, de la CAN de 1972. Nous, on vit celle de 2022 et notamment aussi notre équipe de Limbé, comme on l'appelle, à l'ouest du pays où la passion existe aussi autour notamment de ces villes. Il y a le village CAN qui est installé à Tiko, c'est à une vingtaine de kilomètres de Limbé où joue le groupe F et tout le monde s'est enthousiasmé pour les Lions indomptables qui jouaient le Cap-Vert, c'était en début de semaine. Et notre trio, Hugo Moissonnier, Cédric De Oliveira et Joël Wadem, ont laissé traîner leur micro. Écoutez.
C'est combien l'entrée?
C'est 500 francs. Vous êtes qui exactement? Je ne sais pas.
Radio
France Internationale. Oui. Nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui parce que c'est notre match et c'est une match de Cameroun. Non, il y a beaucoup de personnes, il y a plus de 2000 personnes là-dedans. Mais ici, tu sais que c'est une zone de guerre. Et les gens sont trop peur de porter le maillot parce que tu sais ça, c'est une zone de guerre. Ils ne peuvent pas porter du maillot. Malgré tout cette militaire-là, cette gendarme policier-là, après le match, tu vas rentrer chez toi seul. Donc il faut aussi te méfier, tu vois.
Les indépendantistes, ils n'aiment pas le maillot des Lions indomptables?
Oui, ils n'aiment pas. Moi, je ne sais pas si c'est le maillot, mais ils n'aiment pas le drapeau. Donc, je suis très fier de vous voir. Je sais que vous allez voir le match avec nous ensemble. On va vivre le Cameroun ensemble.
Si je n'ai pas pu arriver au marché pour acheter le maillot, les boutiques sont fermées le lundi. Vous porteriez le maillot, vous n'auriez pas peur de le porter?
Pourquoi pas? C'est mon pays.
Vous avez porté le maillot, vous avez le masque aux couleurs du Cameroun, vous appelez comment?
On dit que je suis Camerounais et nous sommes un et indivisible.
C'est même genre de football, ils oublient qu'il y a la guerre.
Non à la division.
Ils sont au football, ils oublient qu'il y a
la division au Cameroun.
Yet his opportunity ahead of him, Choco Moting, with another selection surprise.
Oh,
Quel instrument jouez-vous?
Le trombone. Non, on est venu animer pour supporter le Cameroun.
La musique, pourquoi c'est important quand on regarde un match de foot? Pourquoi il faut de la musique?
Parce que ça donne la joie au cœur.
Ça baisse le cœur des gens. Si par exemple, si tu es trop
stressé.
Oui, ça te baisse un peu le cœur.
C'est un moment de communion, les Camerounais. La musique aussi, ça sert à rassembler.
Oui, tu sais que le football, c'est quelque chose que nous tous, nous les Camerounais, on l'aime, la musique, pour qu'ils gagnent aujourd'hui.
Bon, alors vous êtes content à la mi-temps, 1-0 grâce à Aboubakar?
On est trop content et on prie qu'on ajoute encore. On veut 4-0, pas 1-0.
Non, il n'y a pas beaucoup de maillots camerounais en fait. C'est pas simple de porter le maillot camerounais.
Il n'y a pas beaucoup de maillots. C'est pour la sécurité. Comme on disait tantôt, quelqu'un qui met le maillot et après la nuit, on vient courir ta porte. Les gens ont peur. Oui, c'est le vert ou jaune. Et ils n'aiment pas le vert ou jaune. C'est le vert ou jaune.
I want to apologize for the mix-up.
Il y a de cela 2 ans à 1 an et demi, tu ne pouvais pas voir quelqu'un porter le maillot. Tu ne pouvais même pas voir les gens se regrouper ainsi. Oui, bon, c'est parce que les choses sont en train de s'améliorer. Au fur et à mesure que le temps avance, les choses s'améliorent.
Vous vouliez plus de buts pour le Cameroun, finalement, c'est le Cap-Vert qui a égalisé.
Oui, on voulait gagner, mais je veux dire qu'on doit encore bien travailler pour mieux jouer encore.
Mais cette fameuse-là, on ne veut pas négliger ça. C'est le football. Le football, ça fait unir les gens. Ça s'est très bien passé. Nous sommes fiers de notre pays. Quelques personnes, certaines personnes qui ne sont pas très fiers de ce football, qui ne veulent pas qu'on joue ici chez eux. Moi, je ne sais pas si c'est chez eux, mais c'est le Cameroun. Le Cameroun est indivisible et nous sommes très fiers de notre pays. Donc, vous voyez, tout ce monde-là, ce ne sont pas seulement les gens de Tiko. C'est les gens qui viennent de Boya, ils viennent de Limbé, ils viennent de Moutengene. Bon, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour l'accueil.
De rien, merci aussi.
Le reportage de nos envoyés spéciaux du côté de Limbé, dans l'ouest de ce pays, qui est le Cameroun. Jean-Paul Akono, c'est Lyon qui a enthousiasmé du côté de Limbé, mais qui ont enthousiasmé aussi ailleurs, qui vont en 8e de finale. Comment vous les voyez, ceux de 2022?
C'est une équipe qui rassure un peu. N'est-ce pas, les Camerounais? Vous savez, il y a eu une entame de compétition de à l'ouverture qui n'a pas un peu rassuré comme ça devait l'être les Camerounais. Et on a joué un peu timoré, un peu crispé. Et malheureusement, on se disait que parce que c'était le match d'ouverture, le grand patron était là, le président de la République. Peut-être que certains n'ont jamais eu, n'est-ce pas,
à
évoluer devant le chef de l'État, la pression et tout et tout. Bon, malheureusement, face à l'Éthiopie, on a un peu essayé de faire sortir la tête de l'eau, mais... on a vu, on a gagné 4-1, mais l'Éthiopie vraiment nous a fait courir comme ils n'ont jamais couru. Et au dernier match, hier,
Jean-Paul Akono, on est obligé de s'arrêter. Okay. C'est la fin de Radio Foot International, malheureusement. Je suis désolée. Merci beaucoup, Joseph-Antoine Vielle, nous avoir rejoint, malheureusement. L'émission est terminée. Bonsoir, Josué Blaise, et bonsoir, Jean-Paul Akono. Merci beaucoup.
C'était Radio Foot International avec Canal+, diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Retrouvez l'intégralité de la compétition sur les chaînes Canal+ Sport.
7 milliards de voisins.